Tout un monde,
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonjour à tous, comme vous le savez, France Culture célèbre la poésie aujourd'hui et demain dimanche à l'occasion du Printemps des Poètes. Tout un monde donne la parole à quelques-uns de ceux qu'on pourrait appeler les réfugiés poétiques, ces auteurs poètes qui ont choisi de vivre parmi nous, d'écrire dans notre langue, cette langue qui n'était pas la leur au départ, telle Shimus Daktekin et Maram Almasri, dont nous entendrons les témoignages, autour de l'éditeur-poète Bruno Doucet, qui s'est engagé passionnément depuis plus de 20 ans pour défendre la poésie, et notamment la poésie venue d'ailleurs.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et des arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images torées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles.
Voilà un grand classique pour commencer, bien sûr, la voix de Paul Éluard, que nous marions à une musique traditionnelle iranienne, histoire de le marier peut-être aussi à Omar Khayyam et à Hafiz. Liberté, eh bien, c'est peut-être le mot le plus usité, liberty, libertad, freiheit, et c'est peut-être celui qui fait le plus vibrer les cœurs, par-delà les frontières de langue et par-delà les barbelés qui menacent toujours de s'installer, notamment dans les têtes. Bonjour Bruno Doucet.
Bonjour.
Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes un grand passeur entre les cultures, vous êtes éditeur, poète, romancier et votre maison éponyme, Bruno oui. Doucet, publie, disons, à 95% de la poésie.
Oui, de la poésie.
Je des ne récits,
publie que des récits. Poètes et quelques récits consacrés aux poètes. Donc, je vis en permanence en poésie.
Alors, ce qui est frappant dans votre catalogue, Bruno Doucet, je ne sais pas combien de livres d'ailleurs.
90.
Eh bien, c'est que votre maison est vraiment vouée à la défense des poésies du monde. C'est-à-dire qu'il y a même une collection dont on va parler qui s'appelle L'autre langue, qui est une collection vouée à cet échange par-delà les univers linguistiques et les fractures.
Oui. Lorsque nous avons créé cette maison d'édition Muriel Zak et moi-même en 2010, c'était avec le souci de faire voler en éclats une dichotomie, une division qui nous a toujours semblé très préjudiciable. Le domaine français d'un côté, le domaine étranger de l'autre. Une collection blanche et une collection vouée au continent noir, voyez. Ça, c'est quelque chose que, sur le plan idéologique, je ne trouve pas vraiment formidable. Et puis, c'est quelque chose aussi qui ne rend pas compte de la vitalité créatrice du monde dans lequel nous sommes, et notamment de ces ressources littéraires qui nous proviennent en langue française de poètes qui, pour autant, sont nés dans des pays non francophones.
Alors, beaucoup de poètes traduits chez vous, mais aussi beaucoup de poètes, et on va surtout parler de cela dans cette émission, qui sont entrés dans le français par goût, parfois par hasard, et qui en ont fait leur univers, et cet univers les a transformés. Donc, il y a une espèce d'aller-retour.
Absolument. Alors, lorsque nous avons créé cette maison d'édition, nous avons immédiatement mis en place deux collections. Une collection intitulée « Soleil noir », mais qui n'avait pas du tout pour but de publier des poètes du continent noir, mais plutôt des poètes qui cherchaient une lumière au plus sombre de l'opacité, au plus sombre de la nuit. Et puis une collection dont nous allons parler maintenant, la collection L'autre langue, que je définissais ainsi, une collection qui accueille ces étranges étrangers qui font le choix d'écrire en langue française et qui proviennent de pays non francophones ou de pays qui sont sur la ligne de crête de deux cultures, de deux langues, je dis deux, mais parfois bien davantage. Et immédiatement, dès la première année, nous avons publié trois auteurs. Un poète irakien qui écrit aussi bien en arabe qu'en français, Salah Alhamdani. James Noel, jeune poète haïtien, mais mon Dieu, qui a grandi avec le créole, dont les premiers livres ont été des livres en créole, et qui nous a donné un recueil en langue française. Et puis, un très curieux livre intitulé « Cette guêpe me regarde de travers » d'un poète au demeurant assez peu connu en France, qui s'appelle Oscar Mandel, qui vit aux États-Unis, qui a conçu l'essentiel de son œuvre en langue anglaise, une œuvre d'universitaire, de chercheur, d'essayiste, mais qui, pour la poésie, au soir de sa vie, s'est mis à écrire en langue française et à se traduire lui-même. De sorte que nous sommes dans un livre bilingue, anglais-français, gauche-droite, vous voyez, dans le miroir de page. Mais c'est un faux miroir de page parce que, en vérité, ce ne sont pas des traductions, ce sont des réécritures dans une ou l'autre langue. Et il lui est même arrivé de nous donner un texte en anglais sans traduction ou un texte en français sans traduction dans l'autre langue.
Alors cet univers que vous avez contribué à explorer et à nous communiquer, Bruno Doucet, donc cet univers de la poésie et de la poésie à la fois dans ce français un peu travaillé dans un sens entre guillemets exotique et puis la poésie étrangère traduite, vous avez commencé à relayer ça il y a 20-25 ans, vous avez pris la direction des éditions Seger, si on sait que Seger ça avait été un grand passeur.
Bien sûr.
Et cette maison a périclité, pas de votre faute d'ailleurs, ça a été un réveil qui s'est terminé, et vous êtes tombé dans un paysage où la poésie était quand même en grande partie discréditée, reléguée, un peu ridiculisée même, je dirais, il y a 25 ans.
Oui, alors il faut imaginer quand même que la poésie hexagonale s'est enfermée quand même, il faut le dire, entre les années 70 et les années 95, dans une sorte de laboratoire d'expérimentation langagière qui a beaucoup d'intérêt, mais qui s'est un peu coupé du grand public et qui a contribué à donner parfois l'impression que la poésie, c'est de la matière grise tarabiscotée, illisible, écrite par de grands professeurs qui s'adressent à d'autres professeurs, forçant parfois les enseignants à devenir des médecins légistes de l'écriture poétique, parfaitement capables de faire l'anatomie du texte, mais pas toujours en mesure d'en faire sentir la vibration. Et alors, dans ce contexte-là, eh bien, il m'est toujours apparu que les voix venues d'ailleurs revitalisaient la langue française.
Oui, surtout qu'il y a eu aussi ce phénomène, c'est que les voix venues d'ailleurs étaient d'une certaine manière quand même mieux accueillis aussi. Et on ne sait pas très bien pourquoi. Certains poètes finalement très lyriques, très sensuels, du type de ceux qui en France étaient marginalisés, étaient bien accueillis. Donc il y a eu comme ça des degrés d'évaluation qui étaient un peu troublants, regardés de l'extérieur.
Alors il y a d'abord dans les années 50-60 l'émergence du concept de négritude, la reconnaissance de la pleine dimension des littératures issues de pays en voie de décolonisation. Et puis ensuite, ces voix venues d'ailleurs, et les éditeurs ont fait leur travail. Vous avez évoqué Pierre Segers, qui avait créé, dès les années 50, la collection « Autour du monde », ornée d'un petit sablier et d'une petite sirène, qui était une manière de rappeler que Blaise Cendrars, ce bourlingueur autour du monde, était son parrain en édition. Puis il y en a eu beaucoup d'autres, bien entendu, jusqu'à des époques très récentes.
Content à retrouver aujourd'hui. Une musique kurde pour saluer l'entrée parmi nous dans ce studio de Shimus Daktekin. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes d'origine kurde, Shimus Daktekin, et cette musique fait référence à un certain petit village où vous êtes né. Vous êtes venu en France il y a de cela fort longtemps. Vous pensiez rester le temps de quelques études et vous êtes resté. Comme vous êtes un poète et même un grand poète, vous avez été primé de nombreuses fois. Vous êtes maintenant un poète reconnu en langue française. J'aimerais que vous nous expliquiez en quelques mots comment on s'approprie comme ça une langue qui vous est complètement étrangère au point d'en devenir un maître.
Alors, moi j'ai commencé dans une contrée, dans un village qui n'avait pas d'écriture. Il n'y avait pas de livre. Donc, en partant, j'ai rencontré des livres en kurde. Et en continuant, je suis venu donc jusqu'à Paris, jusqu'aux études, ainsi de suite, et je me suis trouvé face aux Français. Il y a bien sûr le drame, l'histoire, la tragédie du peuple kurde, qui n'est pas étrangère à mon parcours, mais en même temps j'aurais pu, tout en étant un Turc ou un Kurde, sans problème, j'aurais pu aussi faire ce cheminement-là. Il y a Deleuze qui parle de forger ses armes dans la fuite, que fuir le danger ne suffit pas, mais qu'il faut aussi forger ses armes dans la fuite. Et parce que dans les années 80, je suis arrivé en France en 86-87, et dans les années 90, il y a eu une terrible décennie comme ça. Là, de nouveau, les démons en Turquie sont en train de se réveiller. Donc, il n'était pas tellement possible pour moi de retourner. Du coup, je me suis emparé de la langue française pour dire ce que j'avais à dire. Et je me disais, je ne vais pas écrire pour les montagnes kurdes, je ne vais pas écrire pour le Stambouliot qui a d'autres choses à faire. Le lecteur potentiel pour moi, c'était celui qui était en face de moi. Et pour moi, la poésie, on parlait de un peu la matière grise de la langue, bien sûr qu'il faut écrire, je dis la poésie, c'est essayer de se voir dans le monde avec ce qui nous entoure, donc voir son être dans le monde. Il y a un travail de pensée, un travail de réflexion. Et donc, effectivement, il y a la matière grise qui entre dans le jeu.
Mais donc, c'est une vraie mutation, en fait.
C'est une mutation, mais en même temps, la poésie, pour moi, c'est une manière de dire bonjour à la personne qui est en face. Et donc, il valait mieux que ce bonjour soit dans la langue commune. C'est comme ça que je suis passé au français.
Et en travaillant ce français, donc, qu'est-ce que ça a éclairé à l'intérieur de vous-même? Parce que après, vous vous êtes inventé comme écrivain de langue française. Et est-ce que ça vous donnait un atout, en quelque sorte, de l'avoir abordé de l'extérieur?
Alors, je crois que j'ai pas... je disais, nos grands noms, c'est Ibn Arabi, c'est Rumi, c'est les Mille et Une Nuits. Et ça date de quelques siècles. Vos grands noms, c'est Rimbaud et il date encore d'hier.
Bah c'est aussi Ibn Arabi et c'est aussi Rumi, hein, nos grands noms.
Oui, mais aujourd'hui. Quand on écrit, oui, voilà. C'est que,
non, quand on lit, simplement.
Quand on lit, effectivement, mais pas pour tout le monde. Pour quelqu'un qui écrit, la référence, d'abord, c'est quand même Rimbaud, c'est quand même Lautréamont, c'est quand même les surréalistes, c'est quand même... Donc, ils sont très présents encore. Je n'avais pas cette présence-là. J'avais pas cette appréhension comme ça d'entrer. Du coup, quelque part, je suis entré avec mes gros sabots dans la langue française. Et quelque part, j'ai pris mes libertés avec la grande dame sans trop voilà, m'encombrer de
ce
qui précédait.
Le mot métissage, il vous convient? Vous seriez une sorte de métisse de la poésie, de la langue?
Dans l'être, parce que c'est quoi l'identité d'un être? Sommes-nous faits de ce que nous mangeons, de ce que nous respirons, de ce que nous écoutons, vous nous donnez à écouter de la musique, de ce qui nous a précédés, ou sommes-nous, enfin, c'est là pour nous nourrir de ce qui nous a précédés et d'ouvrir une porte vers l'avenir. Je crois qu'il y a deux conceptions d'identité, c'est-à-dire dans une conception où on se voit un peu comme le gardien de ce qui nous a précédés. Du coup, ça nous enferme dans l'héritage, ça nous enferme dans ce qui nous a précédé, ça nous mène vers les nationalismes, vers les exclusions. Et il y a une attitude qui dit que voilà, ce qui m'a précédé est là pour me nourrir et pour me servir de... On a demandé à Rumi d'ailleurs, c'est quoi le sens de votre danse, la danse des derviches tourneurs. Et il a dit, je m'appuie sur mon pied gauche et avec mon pied droit, je fais le tour des univers. Donc, ce qui nous a précédé, ce, un peu notre identité, nos origines, ainsi de suite, doit nous servir juste de tremplin, d'appui, point d'appui, pour qu'on puisse faire le tour de ce qui nous entoure, de ce qui nous, de ce qui va venir.
Alors, pour les lecteurs, je dois dire que nous aussi, on est reconnaissants à ces, entre guillemets, réfugiés poétiques comme vous, parce que vous venez enrichir notre langue. Et je ne saurais trop inciter donc ceux qui nous écoutent à lire, par exemple, un très beau recueil que vous avez publié au Castor Astral qui s'appelle Élégie pour ma mère, et qui justement travaille cette idée de l'origine, qui commence par ce poème « Enlève ton arbre, mon fils, sépare-le de notre forêt, tu as beaucoup d'ennemis. Tes ennemis survolent les falaises, encerclent les arbres. Ils enlacent ton champ aux branches de la forêt, ils chassent ta voix, ô mon fils, de la face du jour à coups de bâton. » Un très très beau recueil et qui est explicitement aussi, comment dire en anglais, tribute to, salut to language, aux origines.
Hein? Mother. Ouais. Oui. C'est que, je disais, je ne me considère pas comme un être en exil. Et donc, je ne me considère pas comme un réfugié. Mais je me considère comme quelqu'un, un être de passage, au même titre que tout le monde. Moi, je suis à 3000, 4000 kilomètres de chez moi. Vous êtes à 300, à 400 kilomètres de chez vous. Nous sommes tous de passage. Et cette condition d'être de passage me rapproche suffisamment de l'autre pour que je n'ai pas besoin d'autres appellations. Et par rapport à... C'est-à-dire... Ce qu'on parlait de l'identité, comment on voit l'identité, quelque chose qui exclut l'autre ou quelque chose qui inclut ce qui est autour de nous. Là, par rapport aux civilisations, par rapport aux êtres que nous sommes, quand on est jeune, hein, on a envie d'aller conquérir ce qui nous entoure et donc cette générosité d'aller vers. Et quand aussi les nations sont jeunes, il y a aussi ils se nourrissent de l'extérieur et il y a cette envie d'inclure. Et je me dis, quand on refuse cette inclusion, donc se nourrir de ce qui nous est extérieur, quelque part on se condamne. Donc l'Europe, l'Occident, et même demain l'Orient, nous avons tout intérêt à regarder l'autre en face, voir l'autre pour le déclarer comme notre égal et sortir de ces rapports de domination et d'exclusion.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Fraissé.
Dans la langue, c'est l'émission spéciale aujourd'hui dans tout un monde consacrée au Printemps des Poètes 2016. À l'instant, nous entendions le témoignage de Shimus Daktekin et nous sommes ici dans le studio avec Bruno Doucet. Bruno Doucet, on le disait tout à l'heure, vous êtes un grand passeur entre les langues, les poésies de partout et vous voyagez à travers le monde pour porter cette poésie et vous êtes témoin aussi du statut du français aujourd'hui. Oui. Alors c'est très intéressant parce qu'on pense tous que le français est en régression, que tout le monde parle anglais et vous avez un autre son de cloche.
Une formidable érosion et pour autant moi je n'oublie jamais que la langue française est ce qui relie des dizaines, des centaines de millions de personnes qui se retrouvent disséminées sur les 5 continents. Et c'est extraordinaire d'aller parfois dans certaines enclaves francophones. Vous allez en Haïti, vous êtes là au cœur du continent hispanophone et anglophone, et vous avez une vitalité de la langue française tout à fait extraordinaire. Vous allez en Océanie et vous rencontrez la même chose, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Cela me permet de aussi beaucoup de voyages immobiles par la littérature. Par ces voyages immobiles, je m'offre le gîte et le couvert dans la poésie des gens que j'aime. Je voudrais, peut-être en écho à ce que vient de dire mon ami Seamus Dagtökin, dire deux choses, justement. La première, c'est que on entend bien que la France, Paris, la maison de la radio, Saint-Germain-des-Prés, ne sont pas le centre de la langue française. Ne l'ont jamais été. Pour une bonne raison, pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, cela.
Dans la galaxie de la langue française.
Absolument. En tout cas, ces voix venues de tous les horizons nous permettent vraiment de nous positionner autrement. Et je crois que Seamus l'a très bien dit, cela nous permet de comprendre que la poésie, c'est ce qui permet de se penser soi-même comme un autre. C'est exactement comme cela que j'entends la phrase de Rimbaud, « Je est un autre ». Se penser soi-même comme un autre. Et lorsqu'on se pense soi-même comme un autre, alors il n'y a pas de place pour la xénophobie, l'antisémitisme, le racisme. Tout cela ne peut pas trouver sa place de la moindre manière dans la poésie.
Mais déjà, quand on étudie une langue, on découvre ça, si on l'étudie un peu profondément, qu'on est autre quand on parle cette langue. À notre insu, même.
Absolument.
On change presque d'âme, plus encore que de peau. Et puis, alors, évidemment, ce travail qui consiste, quand on est écrivain, qu'on écrit, comme le dit Maram Al-Masri, qu'on va entendre en ce moment au téléphone dans quelques minutes, elle dit qu'elle écrit contre le silence et contre l'absence. On entre à ce moment-là, à travers une langue neuve, dans un autre registre de soi-même. Alors, puisqu'elle nous écoute, Maram Al-Masri, donc, qui est une poétesse syrienne, qui vit en France d'ailleurs depuis longtemps. Bonjour Maram.
Oui. Bonjour.
Vous vivez donc depuis beaucoup plus d'années que la guerre en Syrie parmi nous. Vous êtes depuis une quinzaine d'années, je crois, en France.
Non, plus.
Plus encore, oui.
Oui, 32 ans.
Alors vous avez ce site particulier, Maram Al-Masri. On voit ça dans la collection L'autre langue de Bruno Doucet, où vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le dernier qui est tout à fait poignant, qui s'appelle Le Rapt, et qui est l'histoire d'un enfant dont vous avez été dépossédé. Vous écrivez dans les deux langues, l'arabe et le français.
Et le français, oui.
Il y a une page d'arabe à gauche, une page de français à droite, et c'est beaucoup plus que de la traduction.
C'est beaucoup plus, parce que là, j'étais en train d'écouter que Seamus, il n'aime pas le mot réfugié poétique. Et moi, je trouve d'être réfugié poétique dans la langue, c'est très beau. C'est la langue, c'est comme une mère qui ouvre ses bras, et nous, ces enfants perdus, surtout moi, je pense les Syriens et tous les gens qui sont immigrants, ils ont besoin de cet refuge et dans leur langue. Et moi, mon histoire avec la langue française, elle est très, très spéciale, parce que mes parents parlaient très bien le français, ils parlaient entre eux français, et alors ils ont fait une sorte de frontière, ils ont fait une certaine chambre secrète qui parle de leurs problèmes, de leur amour en face de nous, et nous, on comprenait rien. Et ils m'ont interdit de parler français parce qu'ils voulaient que je parle anglais. Et puis aussi, mon premier amoureux était aussi, il parlait français avec ses copines. C'est pas snobisme. Et moi, j'étais exclue aussi. Et je suis venue en France, je parlais même pas mon français. Je parlais l'anglais et je suis mariée avec un français aussi. Il m'a pas laissé non plus parler le français comme il faut. Et voilà, je me trouve avec un français boiteuse, un français, seulement le français pour acheter du pain ou acheter du poulet. Et je suis poète. Alors, qu'est-ce que c'est la poésie? Qu'est-ce que c'est la poésie? C'est les mains tendues à l'autre, c'est une petite lettre mise dans une petite bouteille et envoyée à la mer et demander l'aide et demander l'amour et demander cet refuge. Et tous mes absents, tous mes amours, ils sont absents. Et alors, j'étais obligée, quelque part, à écrire en français, avec des petits moyens, avec des petits vocabulaires, avec des petites structures, en façon, comme il dit Bruno, du maramisme. D'ailleurs, on va faire un paraît-il, un son de royauté, ça s'appelle maramisme, parce que j'invente de mots, j'invente de structures. Et mon première expérience, c'était aussi que j'ai traduit mes premiers livres, même Cerise Rouge, avec François Durazo, que j'ai dos de doigts beaucoup. Mais tout était moi qui écrivais le premier jet. Et puis, à un moment, j'avais besoin d'envoyer des lettres, de poèmes à un poète en Luxembourg, s'appelle Robert Schechler, pour faire un livre conversation entre moi et lui. Et il parlait pas l'arabe, il pouvait pas comprendre mes poèmes en arabe, alors j'étais obligée d'écrire en français. Et je me suis étonnée, complètement étonnée, comment j'étais capable d'écrire. Et heureusement, il y a, bien sûr, je suis toujours obligée, comme une femme qui se réveille le matin, d'avoir un esthéticien. Des fois, c'est mes Bruno, c'est mes amis qui essayent assez
Merci.
De me remettre le français.
Merci, Maram, de nous relater cet éblouissement. On peut lire de vous le rapt, votre dernier recueil de poésie dans les deux langues, donc chez Bruno Doucet, et puis un autre qui s'appelle « Elle va nu la liberté ».
Plus
que jamais d'actualité, elle va nu la liberté sur les montagnes de Syrie, dans les camps de réfugiés, ses pieds s'enfoncent dans la boue et ses mains gercent de froid et de souffrance, mais elle avance. Maram Al-Masri.
Merci beaucoup.
Une musique tangue sur l'océan des larmes, une danse bizarre nous agite.
Voilà, j'espère que tout ça vous incite à lire de la poésie. C'est le 18e printemps des poètes. Il bat son plein sur France Culture, aujourd'hui et demain. Chez Bruno Doucet, une anthologie des poètes du 20e siècle. On s'aperçoit que le 20e siècle a été un immense siècle de poésie. Ça s'appelle le Bris de Verre.
Les émeutiers du 20e siècle.
Les émeutiers, voilà. À signaler une anthologie aussi du Castor Astral, les 40 ans du Castor Astral. Et même chose, on voit le même travail que chez vous, Bruno Doucet, de décloisonnement donc des diverses écoles poétiques. Ouf, enfin, c'est fini. Je vous signale aussi sur les questions de langue le très intéressant livre de Pascal Casanova, La langue mondiale, traduction et domination au seuil, en particulier un chapitre sur Léopardi qui démontre combien l'usage de la langue poétique est foncièrement politique.
Des douleurs militaires et des slogans.
Voilà, c'est la fin de ce Tout un monde dans le cadre du week-end dédié à la poésie, à la prise de son Pierre Monteil, à la réalisation Vanessa Nadjar. Tout un monde chaque samedi avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Fraissé. Ce soir en direct, n'oubliez pas, 20h-21h, samedi noir, escale dans l'œuvre de Sainte Jeanne Perse, et trois sont les vaisseaux.
Comme un torrent de sève.
Et dans quelques instants, nous poussons la porte capitonnée du Salon Noir de Vincent Charpentier.
Je me sens étranger.